Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Bon Paris FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Fiertés de Mon Paris, où on met sous la lumière des projecteurs les belles organisations, associations et initiatives de la capitale. Aujourd'hui, on se retrouve avec donc Zoé et Cécile. Zoé et Cécile de LAMAP. LAMAP.
Consomme solidaire.
Exactement. L'agence du maintien à l'agriculture paysanne. Est-ce que, madame, vous pouvez nous expliquer voilà, ce que vous faites et ce qu'est LAMAP?
Alors, peut-être que c'est une AMAP d'abord, et puis après on parlera un peu de la nôtre en particulier. Donc en fait, les AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et l'agriculture paysanne, c'est, on pourrait considérer que c'est l'agriculture classique, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu en opposition à l'agriculture industrielle qui s'impose aujourd'hui comme le modèle agricole dominant. Et le but de l'industrie, de l'agriculture industrielle, c'est d'augmenter le rendement. Et pour ça, elle a recours à des intrants chimiques, elle a recours à de la mécanisation, elle privilégie les grandes surfaces avec plutôt des mêmes cultures année après année. Ce qui n'est pas l'idéal en fait pour les sols, ce qui n'est pas l'idéal non plus pour les paysans et les paysannes, parce que du coup il y a moins de paysans et de paysannes et qui en plus vivent pas forcément bien de leur travail. Et voilà, et en plus toute cette agriculture industrielle, elle alimente un marché mondial de l'agro-industrie alimentaire. Et donc, ce courant qui date un peu d'après la guerre, il y a eu un film qu'on a projeté dans le cadre du festival alimentaire qui s'appelle Tu nourriras le monde et qui montre bien. Alors, c'était la Champagne crayeuse. C'est ça. Donc, l'histoire de cette région et qui montre aussi, du coup, l'histoire de l'évolution de cette agriculture. Et donc face à cette évolution, il y a des mouvements de résistance dès les années 60. Et il y a des mouvements de résistance autant chez les producteurs et les productrices que chez les consommateurs, consommatrices. Et donc, par exemple, au Japon, dans les années 60, il y a des femmes qui voulaient échapper aux produits alimentaires pollués et qui se sont organisées du coup pour acheter directement leurs produits plutôt que de passer par des intermédiaires, pour acheter directement leurs produits à des paysans et des paysannes d'où elles savaient qu'elles elles produisaient avec un souci de l'environnement et des personnes qui allaient manger les aliments produits.
Donc c'est un peu ce que vous essayez de vous reproduire ici en France, mettre directement en lien le consommateur et le producteur.
Exactement. Donc, une AMAP, c'est effectivement ça. C'est un groupe de... On dit consomme acteur et consomme actrice parce qu'il y a l'idée que, justement, quand on est dans cette démarche-là, on n'est pas juste dans la consommation, mais on est aussi dans l'action pour notamment faire vivre une autre agriculture. Et donc, c'est des gens qui se regroupent en association et une association qui passe un contrat avec... Alors, généralement, le produit phare des AMAP, c'est les légumes. Donc, on va dire avec un maraîcher et une maraîchère. Et il y a des engagements de part et d'autre, en fait. Les personnes de l'association, donc on dit les AMAPiens, les AMAPiennes, s'engagent à acheter un panier de légumes chaque semaine et préfinancent les paniers. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'engage, alors des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 1 an. Et en fait, quand on s'engage pour toute une durée, toute une saison. Et on prépare l'échec à l'avance. Et ça, c'est vraiment un confort pour le producteur, la productrice, parce que ça fait une assurance de trésorerie. Donc, la personne n'est pas, le paysan, la paysanne n'est pas dépendant de est-ce qu'on a bien vendu au marché aujourd'hui ou pas.
Oui, j'imagine que ça doit être très rassurant pour les producteurs.
C'est ça, ouais.
Mais donc avant de rentrer dans les détails de l'organisation et tout, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse de votre AMAP? Donc avant, hors micro, vous nous avez dit que ça va faire 20 ans là que la vôtre existe. Comment ça s'est créé?
Du coup, je prends
ouais, moi, j'ai sur l'histoire.
Parce que ça fait presque autant de temps que la MAP existe que je la connais. C'est une association, donc ça s'appelle Consom Solidaire, qui s'est créée en 2005. Et qui s'est créé exactement avec cet objet-là, de rapprocher donc des urbains consommateurs du monde paysan et d'assurer, donc, comme l'a expliqué Zoé, la vente de la production d'un maraîcher à des urbains, en tout cas, à des amapiens. Donc en 2005, ils forment un petit groupe, ils trouvent un maraîcher en Île-de-France et ils forment un petit groupe, il y a 12 paniers quoi, au début, et puis ça avance, quoi, ça grossit. Puis en 2007, il y avait un deuxième maraîcher qui a été identifié et on a créé un deuxième groupe dans le quartier. Et donc ça on arrive dans les années, donc entre 2005 et 2010-12, là, c'est le moment où on arrivait à constituer des groupes bien complets pour les maraîchers. C'est-à-dire que nous, on avait à peu près 45 paniers sur chaque lieu. On avait deux groupes dans le 13e, éloignés un petit peu géographiquement. Deux maraîchers qui venaient d'Île-de-France, ou de la grande Île-de-France, disons. Et qu'on accompagne du coup de ce fait-là aussi dans leur installation. C'est-à-dire que la MAP, comme elle garantit aux maraîchers la vente de la production, eh bien, quelqu'un qui s'installe, qui a besoin de cette assurance, qui a besoin d'être accompagné dans le temps, qui a besoin de donner de la confiance à ceux qui vont investir avec lui, souvent, hein, les banques, pour citer que le Crédit Agricole et autres, qui vont quand même financer du matériel, des terres. On pourrait parler longuement de la difficulté d'accès à la terre. Et bien, du coup, la MAP aussi, c'est une garantie que les contrats en fait, que les amapiens signent avec le producteur, c'est une garantie que lui-même peut apporter au niveau d'une banque, par exemple. Et donc, on l'accompagne en étant engagé avec lui, on l'accompagne dans son installation, on lui assure de pouvoir mener à bien son installation et se développer. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un maraîcher avec qui on travaille depuis 11 ans, 12 ans bientôt.
Wow. Donc, vous êtes avec en association avec combien de maraîchers là, vous direz?
Alors maintenant, il y a deux maraîchers.
Okay.
Il y a toujours deux groupes d'amapiens qui consomment les légumes en fait produits par deux maraîchers en Île-de-France, un en Seine-et-Marne et un. Alors c'est plus l'Île-de-France pour le coup parce que c'est à côté de Dreux, donc en Eure-et-Loir. Mais les terres agricoles à Paris sont loin de Paris bien maintenant, sûr. Donc il faut parcourir jusqu'à 100 km pour trouver un maraîcher. Voilà, on essaie de se fixer des limites aussi, hein. Il y a une notion de circuit court qui est importante. Court parce que pas d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur, mais aussi court en distance, c'est-à-dire qu'on limite aussi l'impact carbone, les transports et autres. Donc aujourd'hui, deux maraîchers. Et donc, depuis 2005 et bientôt 2025, donc ça fera 20 ans, en effet, qu'on existe. Et on a mis en place presque une vingtaine de partenariats avec des producteurs, donc des éleveurs, un apiculteur, un arboriculteur qui produit des pommes. Alors, en Île-de-France, on ne produit pas des milliers de fruits, hein, mais on produit des pommes, on produit des poires, on produit des fruits à noyaux. Moins de pêche, d'abricots,
c'est pâtissier.
Voilà, mais par contre, on a de la diversité dans nos pommes. Ça, c'est toujours intéressant. Et c'est bien ce que cette agriculture paysanne cherche à faire aussi, c'est à entretenir cette diversité sur la semence. On a parlé de l'agriculture industrielle qui fait de la monoculture. Une ferme plus petite, elle fait de la polyculture élevage, par exemple. Donc ça, c'est un équilibre aussi au niveau écologique qui est très intéressant. Et donc, nous, c'est tout ce modèle en fait, qu'on essaie de soutenir à travers l'action de Consom Solidaire et de la MAP, de le soutenir en s'engageant avec les producteurs, mais aussi en essayant de diffuser cette parole, de faire connaître le principe, d'éduquer. On dit toujours qu'on a une vocation d'éducation populaire dans Consom Solidaire. C'est une de nos grandes missions.
Sur plein de sujets en plus, j'imagine, sur l'écologie, sur comment dire, la responsabilité des produits, entre guillemets, qui vont être distribués par rapport aux pesticides, par rapport à la qualité de l'élevage, même par rapport à l'agriculteur même. Donc j'imagine qu'il y a plein de bonnes valeurs que vous véhiculez. Mais quand vous commencez, du coup, en 2005, est-ce que les gens sont tout de suite un petit peu intéressés par cette nouvelle idée d'acheter directement chez le producteur? Est-ce que ça marche ou vous avez un peu de mal à trouver voilà, des clients ou des...
2005, ça démarre un peu tout juste parce que c'est vrai que la première AMAP en France, elle date de 2001. Ça a été fait en Provence. C'est un couple mythique hein, dans le milieu des AMAP. Ils s'appellent Daniel et Monique Vuillon. Les Vuillons, on les appelle, qui ont en fait découvert ce principe-là, eux pas au Japon, mais aux États-Unis, et qui, alors qu'ils étaient des agriculteurs embarqués dans des problèmes de commercialisation, soumis aux lois du marché, de la grande distribution et tout ça, ont rencontré aux États-Unis en fait une ferme qui avait mis en place ce système de contrat et d'achat. Et ils ont créé du coup leur groupe de vente via ce système AMAP en Provence en 2001. Donc c'était tout récent, donc comme les réseaux commencent à se développer, c'était en Provence. Et 2005 en Île-de-France, j'ai plus en tête le nombre d'AMAP, mais il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. Mais quand même, ça commençait à parler, c'est vrai, dans des milieux concernés par l'environnement, dans des milieux qui cherchent à développer une économie aussi alternative, hein, qui cherchent à sortir de la grande distribution, qui ont conscience de l'importance de ce circuit court, justement, et de pouvoir maintenir en vie réellement un agriculteur et qui pratique cette agriculture paysanne. Donc les groupes sont petits au début, mais ils se constituent. Et puis, et vraiment, je parlais de vers 2010, là, 2010-2015, on a un moment où on a pas mal de gens intéressés et en fait, on a plutôt l'effet inverse. On a plus de personnes intéressées que de possibilités d'accueillir ces gens intéressés.
D'accord.
Donc on avait des listes d'attente, quoi. Je veux dire, le producteur, c'est lui qui fixe le nombre de paniers qu'il peut fournir. C'est ce qu'il produit. Donc nous, il nous dit, moi, je peux en fournir 45. On ne lui demande pas 70, quoi. Il nous dit, j'en produis 45. OK. Il fixe le nombre, il fixe le contenu du panier. C'est lui qui choisit ce qu'il produit. Et il fixe le prix. Puisque c'est lui qui sait ce qui le rémunère, en fait. C'est le prix du panier qui va lui permettre d'être rémunéré. Donc d'abord, par rapport à son coût de production. Et aussi en intégrant le coût de production, c'est en intégrant son salaire aussi. Quoi.
Totalement. Donc, voilà. Une grande liberté pour les agriculteurs, ça doit être très, très plaisant pour eux de changer de système là, et d'arriver dans un modèle où ils peuvent tout choisir finalement. Est-ce qu'ils produisent, comment ils le produisent et combien ils sont rémunérés quoi.
C'est ça, ils sont beaucoup moins contraints.
Beaucoup moins contraints, oui. Alors après, c'est une liberté, mais c'est aussi, y a aussi un engagement de transparence dans de leur part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Nous, notre maraîcher, on le voit toutes les semaines. Donc, c'est aussi, quand il est là, il discute avec nous. Alors déjà, il nous tient au courant un peu de l'avancée des cultures, de comment ça va. Et puis, en plus, il fait une petite lettre hebdomadaire. Donc voilà, par exemple, là, on sait qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, qu'il n'a pas fait tout à fait assez chaud, que du coup, les cultures prennent un peu de retard. Mais... du coup, ça explique pourquoi on sait aussi ce qu'il y a dans nos paniers. Et puis, c'est aussi l'occasion de discuter.
Il y a
un vrai lien. Donc, par exemple, je sais pas, des fois, on pourrait dire, des haricots verts, c'est bien, mais finalement, on n'a pas tant que ça dans les paniers. Et puis, il nous dit, ce que c'est le boulot que c'est de récolter, enfin, de cultiver et de récolter des haricots verts. Donc, effectivement, il dit, j'arrive à en mettre 3-4 fois dans l'été, mais effectivement, pas forcément plus. Mais du coup, on sait pourquoi et il y a quand même un échange autour de ce qu'il y a dans le panier. C'est expliqué et puis nous, on peut aussi faire des demandes. Ces tomates l'année dernière, elles étaient vraiment super bonnes. Ah, ok, on en plante éventuellement, on en plantera un peu plus la semaine l'année prochaine. Et par rapport au prix du panier, c'est aussi transparent, c'est-à-dire que c'est en discussion avec les amapiens et les amapiennes pourquoi c'est ce prix-là, ce que ça représente, comment vit économiquement la ferme en fait. Donc c'est vraiment une autre manière de une autre relation avec les personnes qui produisent ce qu'on mange en fait. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
Ils sont considérés comme des humains finalement ou avec leurs raisons et là il y a un vrai dialogue en fait entre le producteur et le consommateur. Ça a l'air d'être un modèle extrêmement responsable, mais encore une fois que ce soit écologiquement ou même socialement pour les deux parties. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait tendre plus tard à un modèle comme ça généralisé partout dans notre pays?
Bah, en fait, quand même, Cécile, tu parlais des années 2010-2015 où effectivement il y a eu pas mal. Là, je lisais en 2012, il y avait en Île-de-France 260 groupes AMAP et avec environ 150 paysans, paysannes. Et mais c'est vrai que les années 2000, c'est aussi un moment où il y a eu un engouement pour les produits de qualité, notamment pour la production, l'agriculture biologique. Il y a eu la crise de la vache folle, il y a eu toute cette réflexion autour de ce qu'on a appelé la malbouffe. Et donc, il y a eu un élan. Voilà. Et finalement, les AMAP ont été une façon de pouvoir consommer des produits dont on était assuré de la qualité. C'est vrai que par rapport à ça, l'offre de produits biologiques, par exemple, elle s'est quand même beaucoup développée. Et y a des personnes qui vont préférer aller acheter des produits bio, ce qui est déjà très bien. Mais par exemple, dans un supermarché, alors en grande surface ou même dans un supermarché, dans une biocoop ou quelque chose qui va être plus vraiment sur les produits bio. Et voilà, donc c'est vrai que là, y a, peut-être qu'on est arrivé un peu à... comme un seuil de saturation, parce qu'on sent que au-delà de l'engagement, enfin au-delà de la volonté de d'avoir des produits de qualité, il y a aussi quand même un engagement qui va pas forcément convenir à tout le monde. Donc je crois que c'est une proposition, mais il faut avoir envie. Là, des fois moi je dis, quand je viens à la MAP le jeudi soir, c'est un peu comme mon activité. Il y a des gens, ils s'inscrivent, ils ont yoga le mardi ou tennis le mercredi ou à MAP le jeudi. Et il y a vraiment quelque chose de ça parce que ça nous prend quand même du temps de venir. Et puis si on vient juste prendre les légumes, c'est pas non plus tellement ça l'idée. C'est aussi du coup discuter avec le maraîcher, discuter avec les autres AMAPiens, AMAPiennes. On échange des recettes. Il y a besoin de faire les pesées de légumes. Donc en fait, chaque semaine, il y a 2-3 personnes qui font ce qu'on appelle font la distribution. Donc, en fait, qui bénévolement sont là pendant tout le temps où les autres passent pour donner les légumes. Et donc voilà, donc tout cet engagement, c'est un lien social complètement qu'on n'a pas forcément quand on va faire ses courses, même c'est dans vrai. Un endroit où les produits sont de qualité. Mais du coup, il faut en avoir envie.
Mais alors, tu nous disais que l'AMAP avait un peu profité de cet engouement par rapport à la qualité des produits. Est-ce qu'il ne pourrait pas justement profiter d'un nouvel élan avec l'importance un peu sociale pour les agriculteurs? On a vu qu'ils souffraient énormément et que là, ils ont manifesté leur mécontentement ces derniers mois. Est-ce que justement on pourrait pas profiter de cet engouement-là ou de l'engouement écologique pour pousser et attirer plus de consommateurs?
On a vu, oui, forcément ces derniers mois la crise agricole avec qui parlait beaucoup du revenu des paysans, et bien sûr que nous qui sommes impliqués dans ces mouvements d'AMAP et dans le plus largement dans un réseau régional mais aussi dans un réseau interrégional, il existe ce qu'on appelle le MIRAMAP qui est le mouvement national, finalement, des AMAP. On a plusieurs personnes à Consom Solidaire qui sont impliquées au niveau national dans le mouvement, qui portent ce modèle, en fait, qui portent et qui le défendent. On a bien vu que ce modèle-là, bien sûr, il est là pour garantir le revenu des paysans. Donc,
oui, j'imagine que il est les paysans qui en profitaient, ils se plaignaient, eux, d'un manque de revenus ou ils étaient plutôt en sécurité?
Ils ne sont pas concernés de la même façon, puisqu'ils ne sont pas du tout soumis aux mêmes contraintes du marché. Et forcément que les paysans qui sont en AMAP, eux, ils ont un revenu qui est garanti par le modèle, en fait.
Extrêmement bénéfique.
Sous réserve. Alors, c'est très vertueux. C'est ce qu'on dit toujours. C'est vraiment un cercle très vertueux et pour le paysan et pour les consommateurs, puisque les AMAPiens, les AMAPiennes, ils bénéficient chaque semaine d'une agriculture et d'une alimentation, pour le coup, de grande qualité, quoi. On privilégie des productions en agriculture biologique parce que forcément c'est un cercle vertueux global pour l'écologie, pour la production, pour le modèle économique et ainsi de suite. Et donc forcément que quand on est impliqué quand on est engagé dans une AMAP, on est moins soumis à ces questions de revenus. Sous réserve encore qu'on ait un groupe d'AMAPiens suffisamment grand. Et c'est un peu... on a parlé du début où on crée les groupes et puis ils grossissent. On a parlé des années 2010-2015. C'est la fête. Hein. Nous, on avait 10 ans. On a fait une belle fête. Et en effet, on avait des groupes d'AMAPiens qui étaient complets, entre guillemets complets. C'est-à-dire qu'on pouvait constituer un groupe suffisant pour et les maraîchers, puisqu'on a deux maraîchers à ce moment-là. Et on voit que ces dernières années, en fait, on est plus dans la peine. C'est-à-dire qu'on a moins, on a beaucoup plus de mal à recruter des amapiens. Comme disait Zoé, hein, on a une notion de contrainte quand même associée à ce modèle-là. Il faut venir, machin, on ne choisit pas ce qu'il y a dans le panier. Voilà, on est d'accord ou pas avec le prix. Il y a un vrai critère économique. Hein, je veux dire, l'inflation, elle touche tout le monde. Il faut qu'on puisse y aller. Et donc, si nous, association, on est en capacité de monter un groupe suffisant et complet pour le maraîcher, alors la question ne se posera pas. Mais en ce moment, et on n'est pas les seuls, parce qu'on discute beaucoup avec le réseau, notamment AMAP Île-de-France, les groupes ne sont pas complets aujourd'hui. Donc la question du revenu se pose aussi pour des personnes qui sont comme ça, qui sont dans ce système-là.
Forcément. Donc, est-ce que la première contrainte pour trouver de nouveaux AMAPiens, c'est la contrainte économique ou plus de temps?
C'est un peu tout, je pense. C'est multifacteur. C'est vraiment ce qu'on nous oppose souvent, c'est la contrainte de temps et de choix.
Le choix, c'est quelque chose de pas facile. Hein. Moi, au début, c'était parce que j'ai l'impression quand même on est pas mal à fonctionner ou on part faire les courses avec une liste en se disant ah tiens, je pourrais envie de faire ça. Hop, éventuellement, on garde la recette, Et là, il faut complètement inverser. C'est-à-dire qu'on reçoit le panier. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Ah,
c'est
tiens.
C'est un peu une boîte mystère. Justement, j'ai. Pas,
oui,
pas un peu
alors.
Agréable.
Après, au bout de plusieurs années, ça devient moins mystérieux parce qu'on sait quand même un peu que, par exemple, on ne s'attend pas en janvier à avoir des tomates. Hein, donc, on a bien compris qu'il n'y avait pas de tomates en janvier et que si on en trouve, c'est un coût écologique qui ne vaut peut-être pas la peine. Donc on apprend aussi. À vivre comme ça avec les saisons, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de une inversion. Et au début, je pense que ça peut ne pas plaire parce qu'on peut se dire moi j'aime bien choisir. Alors en fait, ce qui n'empêche pas, hein, parce qu'on peut toujours à côté faire autre chose. Et voilà. Et moi, je sais que maintenant, je le vis plutôt comme un soulagement. Et en fait, quand je suis en vacances et que du coup, j'ai pas mon panier. Ah, faut que je fasse des courses. Ah là là, mais qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, des fois, je me retrouve comme ça au marché, je sais pas où, et puis je dis non mais t'as qu'à prendre un panier à map et puis tu verras bien après. Donc je me dis qu'est-ce qu'il y a dans le panier en ce moment ? Bon ben voilà. Mais c'est vrai que c'est un changement d'habitude et c'est pareil le fait que c'est pas n'importe quand, c'est le jeudi, le soir en plus de 20h à 21h. Bon alors après chaque AMAP a des horaires différentes mais c'est pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner que de dire même si on est quand même pas mal à avoir des moments de course un peu ritualisés, n'empêche que si on peut pas, on peut pas. Alors avec la map aussi, bien sûr, si on peut pas, on peut pas. Je veux dire, nous, on a quand même un système d'aide. Ah, je peux pas prendre mon panier aujourd'hui, est-ce que tu peux me le prendre? Je passerai le prendre demain, ou alors je peux pas le prendre, je te le laisse, qui est-ce que ça intéresse de le racheter, etc. Donc, c'est pas... Il y a forcément une... par rapport à ce qui peut être vécu comme des contraintes, que ce soit, je ne sais pas trop quoi faire de mon panier, on échange des recettes, je ne suis pas là, on s'entraide, etc. Donc, c'est aussi un collectif qui, du coup, vient aider par rapport à tout ça.
Oui, au final, ça devient plus que juste un collectif, c'est un groupe, en fait, des amis qui s'échangent des recettes, qui s'entraident un petit peu. Ouais. Mais là, il y a une question qui là, me reste en tête, c'est dans un contexte en fait, où bientôt, on n'aura plus le choix de ce qu'on va manger, parce que on va avoir du mal à faire pousser des choses sur une terre qui ne va plus pouvoir vraiment nous accueillir. On n'a pas intérêt là à changer notre manière de consommer et à tendre vraiment vers une manière de consommer plus responsable et durable. Parce que là, sur tous les points hyper importants, écologique, c'est bon. Social, par rapport aux agriculteurs et tout, c'est bon. Est-ce que vous, dans votre communication et manière de toucher des gens et de récolter des amapiens, il ne faudrait pas peut-être accentuer sur ces points pour montrer que finalement, bientôt, on n'aura plus le choix de consommer comme ça.
C'est ce qu'on essaie toujours de mettre en avant, en fait. Mmh. Quand on communique ou dans des flyers, avec le réseau, on travaille beaucoup avec le réseau AMAP Île-de-France, notamment, parce qu'on est impliqué dans le réseau. Ils ont une communication qu'on soutient, qui nous aide aussi là-dedans. On met toujours ces points qui nous paraissent tellement vertueux en avant et pour lesquels on a fait ce choix. Mais voilà, on est obligé de dire mais en ce moment. Ouais. Parce qu'on voit bien que, d'abord, c'est des modèles qui ne sont pas du tout suivis d'un point de vue politique. On a beaucoup de mal quand même. On voit bien que nous, on va le porter d'un point de vue associatif, local. On arrive ou pas à faire le plein. Mais il faut aller au-delà, je veux dire, c'est
totalement.
On est sur la question du modèle agricole, donc il faut que ce soit des décisions politiques. Et l'agriculture biologique, par exemple, a été très mal soutenue ces dernières années, quoi. Donc il y a même des personnes qui avaient fait le chemin d'aller vers l'agriculture biologique, donc ils ont fait tout ce chemin de conversion. Ça prend 3 ans de conversion pour un producteur, d'arrêter, de changer de façon de produire, de baisser. Arrêter ses intrants chimiques, et du coup avoir une production qui souvent est plus faible, donc qui doit être valorisée à meilleur coût, à meilleur prix, quoi. Et donc ce chemin-là, des agriculteurs l'ont fait parce qu'il y avait un engouement, comme on dit, à partir du moment où on a mis le doigt un peu sur la malbouffe, il y a eu une demande de l'agriculture biologique. Et maintenant, on le valorise moins. Et on voit des gens qui reviennent en arrière, des agriculteurs qui sont en train de faire le chemin inverse. Donc là, on est alarmé. Enfin, ça, il faudrait que, toujours pareil, la politique agricole, qu'elle soit nationale, mais surtout commune, parce qu'aujourd'hui, c'est très géré par l'Europe, la PAC et autres, soutiennent les modèles d'agriculture biologique, par exemple. Et on n'en est pas là.
Est-ce qu'il y a eu des tentatives de votre part, ou de tous les différents cercles d'organisation, de créer une relation avec plusieurs acteurs politiques pour justement un peu démocratiser ce modèle?
Mais je crois qu'il y a certaines AMAP qui... notamment, il me semble qu'au début, quand même, il y a eu vraiment un partenariat avec des villes. Des fois, parce qu'il y a une question aussi qui se pose par rapport à ce que tu disais, c'est la question de l'accessibilité. En fait, parce que quand on paye les légumes, ou les produits en général, au prix que ça coûte de les produire dans un modèle qui respecte la nature, ça coûte plus cher.
C'est combien un panier?
Un panier, c'est... Alors, nous, on est à 17 euros pour un panier qui est entre 4, 6 kilos. Les paniers d'été, souvent, sont un peu plus fournis.
Alors, c'est comparable à ce qu'on pourrait trouver en grande surface.
C'est tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver.
Enfin, en termes de qualité-prix, c'est pas des prix qui sont forcément.
Oui, je pense qu'en grande surface, pas en épicerie bio, mais je pense qu'en grande surface, même en légumes bio, on doit pouvoir trouver sur des produits un peu d'appel, je sais pas moi, les carottes, les pommes de terre, réussir à trouver moins. Et puis, pour le coup, par rapport à du non bio. C'est aussi plus cher, mais aussi parce que, c'est ce qu'on dit, on rémunère le juste travail du producteur, de la productrice.
Donc,
voilà, donc ça, forcément, donc en ce moment, dans le réseau des AMAP, il y a toute cette question de comment faire aussi pour que, finalement, le prix ne soit pas un frein. Donc nous, à Consom Solidaire, on a un système, une caisse solidaire, en fait. On appelle ça les paniers solidaires, qui est alimenté par des dons des AMAPIAS. On a décidé aussi de flécher une partie de l'adhésion dessus, en se disant, il peut arriver qu'il y ait des gens qui, ponctuellement, aient besoin d'un coup de main, et on trouverait ça dommage que des gens, éventuellement, parce qu'ils ont une baisse de revenus à un moment, disent, moi, je vais être obligé d'arrêter la MAP. Et donc, dans ces cas-là, on engage une discussion, on dit, on peut avoir une participation des paniers solidaires pendant un temps. Et y a aussi des... Dans les réflexions, il y a aussi la question éventuellement d'avoir des partenariats avec des mairies, par exemple, ou des associations qui vont peut-être subventionner pour pouvoir pour rendre cette façon de la possibilité d'être amapien ou amapienne que tout le monde puisse. Et il y a des AMAP qui font des paniers des prix différenciés selon les revenus. Par exemple, on gagne un peu plus, on paye un peu plus, on gagne un peu moins, on paye un peu moins, comme ça se fait sur d'autres.
C'est une bonne manière de fonctionner.
Ouais. Le réseau des AMA participe aussi à toute cette réflexion autour de la sécurité sociale alimentaire, donc qui est vraiment cette idée qu'en fait, finalement, bien manger, c'est un droit comme d'être soigné. et donc qui imaginent des caisses sociales de l'alimentation avec des groupements de citoyens et de citoyennes et des groupements de lieux d'achat où on pourrait acheter des choses de qualité, avec un financement, un montant mensuel par personne. Un droit, en fait. On a le droit chaque mois à 150 euros pour se nourrir correctement. Et ces 150 euros, ils sont fournis par la mise en commun des revenus de chacun et chacune, en fait.
Et au final, ils vont bien rémunérer des gens qui travaillent énormément pour de bonnes choses. Donc, encore une fois, c'est un cercle vertueux incroyable. Mmh. Et vous avez parlé un peu de tout ce qui peut un peu tracasser, entre guillemets, le consommateur. Est-ce que vous avez des moyens de rendre le système un peu plus adapté en fonction du cas par cas, ou c'est un peu un système universel pour tout le monde?
C'est vrai, des fois on nous dit qu'on n'est pas assez souple. Souple vis-à-vis de ces contraintes, c'est-à-dire c'est un jour fixe, il faut payer par chèque. Alors, ça c'est un truc qui n'existe plus.
On peut faire des virements peut-être.
Ça n'existe plus. On peut imaginer et faire évoluer les choses. Mais nous, notre préoccupation première, c'est souvent aussi de limiter le travail de gestion, par exemple, du producteur. C'est-à-dire que nous, on fait le recueil de tous les chèques, on fait le pointage des chèques, on s'assure que tout ça, c'est fait.
Oui,
on
que lui ce amène son travail en plus.
Voilà,
à faire.
On lui amène l'enveloppe, c'est compté, c'est prêt, on sait que c'est là, clac, lui, il va à la banque, il les dépose. Si c'est les virements, c'est lui. Pointe, voilà. Donc on essaie, c'est vrai, de l'accompagner aussi pour dans ce qu'on peut, pour limiter aussi tout ce travail-là. Parce qu'il a par ailleurs un autre travail de production, mais aussi de gestion de son entreprise, de transparence vis-à-vis de nous aussi. Donc c'est déjà beaucoup,
très chronophage, j'imagine.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait inventer, hein, c'est sûr, peut-être pour se rendre plus souple.
Mais il peut y avoir des gens, par exemple... c'est déjà arrivé que des gens disent moi ça m'intéresse, mais nous c'est de 20h à 21h. Quelqu'un qui nous dit moi je finis de travailler à 20h, je pourrais jamais faire la distribution par exemple, parce que pour être à la distribution il faut arriver à 20h. Ou des gens qui ont des enfants et qui disent moi 20h c'est vraiment pas le bon moment, ou qui ont une autre activité. Et je dis ça parce qu'à Oudiné, on avait des adhérents qui faisaient du hockey juste à côté. Alors, du coup, ils arrivaient pile à 21h à la fin, juste
avec
au moment
de la...
de
hockey.
C'est ça, avec encore des fois, quand ils étaient vraiment trop en retard, ils arrivaient tout habillés. Et dans ces cas-là, on s'arrange. C'est-à-dire qu'on ne transige pas tellement sur le fait que c'est quand même un engagement associatif. Mais par contre, on dit, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, pendant les vacances, c'est quand même possible de faire des distributions? Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais donner un coup de main administratif parce qu'on soulage le travail du maraîcher, mais du coup, on le fait nous. Ouais. Donc, on essaye quand même d'impliquer les gens. L'idée n'est pas que je viens prendre mon panier de légumes sans parler à personne et sans m'occuper de rien à part faire mes chèques au début. Voilà. Donc, mais bien sûr, il y a des discussions sur comment chacun, chacune peut s'investir, en fait.
Alors, j'ai une question et vous me direz si je m'avance. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des formules différentes d'adhésion en fonction de l'implication que chacun est prêt à mettre? Par exemple, une personne qui souhaite consommer de manière responsable mais n'a pas forcément le temps de s'engager, il adhère à une certaine offre, à un prix fixe, où il prend juste son panier et après il va faire ses affaires. Et après, une personne qui peut s'engager au sein de l'association, aider à faire des distributions, etc., vous aider avec le travail administratif, et du coup pourrait bénéficier peut-être d'un allègement du prix de son panier. Est-ce que ce serait une possibilité?
Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que tu écris, c'est un peu ce qui se passe dans toutes les associations, en fait. Il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués. Alors, évidemment, des fois, ça crée des moments un peu de tension quand celles et ceux qui s'impliquent sont un peu en surcharge. Peut-être à la différence. Non, je ne sais pas, parce que quand on parlait l'année dernière des histoires de l'allongement de l'âge de la retraite, en fait, il y avait quand même un argument aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent avec des retraités et que du coup, quand les gens sont à la retraite plus tard,
il y a moins de temps pour
s'engager dans des associations. Mais nous, c'est pas tellement ça. Non, nous, on n'est pas à la retraite encore. Donc, pour moi, ça irait un peu à l'encontre de cette idée qu'il y a dans le monde de l'association, que bah, c'est un monde d'engagement. Et voilà, par contre, il y a l'occasion de dire si c'est trop. On va plutôt chercher différentes façons de s'engager que la possibilité. Okay. Alors, après, des fois, il y a des gens qui spontanément le font. Par exemple, dire bah, moi, je vois bien que je ne m'engage pas trop, bah, je vais donner un peu plus, par exemple, au panier solidaire ou des choses comme ça, ou, voilà, qui vont d'elles-mêmes chercher une façon, effectivement, un peu de compenser un moindre engagement.
Ouais. Je pose la question parce que, pour moi, dans un monde idéal, ce serait voilà, notre manière de consommer des fruits et des légumes. C'est hyper important et on sait à quel point voilà, les agriculteurs sont la colonne vertébrale voilà, des pays dans le monde. Et du coup, je posais la question un peu dans un espoir d'essayer de voilà, convaincre plus de monde de s'engager de cette manière. Parce qu'en vrai, j'imagine que acheter son panier toutes les semaines, c'est quand même une forme d'engagement minime comparé à voilà, faire ses courses chez Carrefour et acheter voilà, leurs légumes pas bio. Mais oui, je pense que c'est peut-être une des choses qui pourrait convaincre le plus de monde possible, peut-être voilà, un système avec plus d'adaptabilité. Mais en tout cas, pour les gens qui s'engagent, c'est quoi les retours voilà, qu'ils vous font depuis qu'ils ont commencé à acheter des fruits avec la MAP, des fruits et légumes avec la MAP?
En fait, on se rend compte qu'on a un gros groupe de fidèles, quoi. C'est vrai qu'on parlait de 2005. Il y a des gens qui sont à la MAP qu'on a dans le groupe ici, qui sont là depuis 2005. Donc, ouais. On a entre-temps... Depuis 2005, on a accompagné, j'ai compté combien 5 maraîchers, c'est ça. Donc, dans leur installation et dans leur développement. Après, il y a des moments où le partenariat, en fait, s'est arrêté parce que le maraîcher arrête, parce que le maraîcher change d'orientation, des fois, parce qu'il arrête aussi de livrer à Paris, par exemple. Il est en Seine-et-Marne et il a trouvé des groupes plus proches de chez lui. Bah, du coup, il ne vient plus à Paris parce qu'on a eu voilà, plusieurs situations. Et ben, il se trouve qu'on a depuis 2005, il y a des personnes qui sont toujours là. Donc c'est, eux aussi, ils ont une vie stable à Paris, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais, et donc, on a un retour en fait, de fidélité, c'est ça. De fidélité et de satisfaction par rapport à ce mode de consommation, à ce lien vraiment qui est créé avec le producteur et à la qualité des produits surtout aussi qu'on récupère, quoi, enfin qu'on consomme. Quoi. Les retours, ils sont plutôt positifs. Il y a ceux qui restent très longtemps, je dirais, et ceux qui vraiment feront que passer parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à inclure la MAP dans leur fonctionnement de vie. Après, on est à Paris aussi, on a une population qui bouge beaucoup, qui va, qui vient, qui reste 2 ans, qui part, qui déménage au bout de 6 mois. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on... Cette flexibilité qui serait peut-être nécessaire d'avoir plus pour attirer plus de monde, ça nécessite, c'est vrai, d'avoir une forme de stabilité importante quand même.
Forcément.
Mais il y a des retours quand même de de satisfaction, enfin dans l'engagement et vraiment dans la relation, je pense.
Et on a aussi régulièrement des gens qui arrivent, qui disent « Ah ben, je viens de déménager dans le 13e, j'étais dans le 19e, j'étais dans tel AMAP dans le 19e » et d'accord. À peine ils arrivent, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand en fait, autant il y a un pas à franchir, autant une fois qu'on l'a franchi...
On change de manière de consommer.
Voilà, une fois qu'on est convaincu, on arrive dans un endroit, plutôt que de chercher qu'est-ce qu'il y a. Alors évidemment, on découvre les magasins du quartier, mais aussi on se dit « Tiens, où est-ce qu'il y a une AMAP près de chez moi ? Et quand est-ce qu'elle distribue ? Et ça tombe bien, je peux y aller. »
En fait, j'imagine que c'est quand même une certaine facilité aussi, la MAP. Parce que, enfin, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de penser à ce qu'on va acheter. On est sûr que l'agriculteur va être bien payé. On est sûr que voilà, on a une sorte de responsabilité écologique. Au final, on va juste chercher son panier. Et c'est un beau moment d'échange social et tout. Enfin, j'imagine que quand on déménage dans un quartier, c'est super. C'est un bon moyen de se faire des amis, de rencontrer du monde.
Ouais,
et aussi d'avoir une consommation, entre guillemets, facile. Parce que j'y vais. Je sais que voilà, je paye tous les mois.
J'y vais les yeux fermés, quoi.
Exactement. J'y vais les yeux fermés, je repars avec mon panier de fruits et légumes garantis. Donc, au final, je pense qu'il y a quand même une certaine facilité à ça.
Moi, je trouve ça super pratique. Hein. je vais chercher mon panier, je me pose jamais la question de savoir ce que je vais acheter comme légumes. Je prends ce qu'il y a dans le panier et je mange ce qu'il y a dans le panier. Et ça tombe bien, j'aime bien tous les légumes, je crois.
Je comprends tellement. Mais alors, en tant qu'engagé, du coup, dans l'association, c'est quoi, vous, vos retours? Est-ce que c'est quelque chose qui a pris une dimension au-delà de juste voilà, un engagement? C'est devenu un peu un quotidien pour vous?
Oui, moi, c'est complètement inclus dans notre vie. Enfin, moi, c'est complètement inclus dans ma semaine, quoi. Je veux dire, la MAP, c'est sûr. Et puis aussi, la cause, quoi. Je veux dire, la cause, on la porte à plein d'autres moments. C'est-à-dire, on a parlé des réseaux régionaux. Dans le réseau AMAP Île-de-France, on suit quand même aussi ce qui se passe. On suit ce qui se passe même sur le mouvement interrégional. On parlait tout à l'heure de la parole politique qu'il fallait porter. C'est, si nous, on le porte, on va le porter individuellement, on va le porter dans l'association, mais le réseau et le réseau interrégional en particulier ont des actions spécifiques justement vers les politiques. Chaque fois qu'il y a des élections, le réseau se mobilise avec d'autres partenaires, avec des partenaires associatifs et des syndicats agricoles qui vont porter ces modèles-là. En fait, c'est donc on est aussi actif dans ces domaines-là, quoi.
Après, on a réfléchi. Enfin, je dis on, mais moi, j'étais pas à ce moment-là. Mais il y a eu toute une réflexion à Consom Solidaire sur le partage des responsabilités. Et en fait, parce que on est engagé, mais moi, je pense pas à la MAP tous les jours. Hein. J'y pense tous les jeudis, forcément, quand je viens chercher mon panier. Tous les mardis, parce qu'en ce moment, c'est moi qui envoie le mail pour dire aux gens « Ah, souvenez-vous, il y a distribution jeudi, voilà ce qu'il va y avoir. Rappelle qui c'est qui fait, voilà. » Mais quand c'est Cécile qui fait ce mail, moi, j'y pense pas le mardi. Nous, on est responsable de la filière légumes sur Oudinet. Mais en fait, les autres produits ont d'autres responsables de filière. Donc, quand il y a la distribution des fromages de chèvre, toutes les deux, on ne s'en préoccupe pas du tout. Donc, il y a vraiment cette distribution des responsabilités dans les liens avec les producteurs, les productrices. Et il y a une distribution aussi des responsabilités. Il n'y a pas de président ou de présidente de Consom Solidaire. Il y a un conseil d'administration collégial avec 17, je crois, cette année, co-présidents, présidentes. Et donc, ce CAC, il siège une fois tous les mois et demi. Alors, on n'est pas 17 à chaque réunion. Hein. L'idée, c'est bien que chacun, chacune qui se propose, le CAC, il est élu lors de l'Assemblée générale. Et chacun, chacune vient quand il ou elle peut. Donc, c'est pareil, il y a un petit noyau de 7-8 qui est quand même là assez souvent, qui sont souvent des plus anciens. Puis, petit à petit, on essaye comme ça d'intégrer les personnes. L'idée aussi, là, on a commencé depuis 2 ans un fonctionnement avec des commissions qui s'occupent en fait d'une partie, une commission communication, une commission relation éducation populaire qui s'occupe de certains événements, une commission et la commission communication qui s'occupe du site. Donc en fait, on a essayé aussi d'impliquer des personnes, non pas en leur disant venez tout de suite vous occuper de toute la MAP, parce que ça, effectivement, ça peut faire peur, mais sur un aspect ponctuel de la, un aspect de la MAP, ponctuellement, il peut y avoir, quand on fait les réadhésions, il y a un moment où on récupère plein de chèques, et à ce moment-là, souvent, on a des gens qui nous aident, qui disent, moi, je peux venir récupérer les chèques, nous aider à pointer, etc. Donc, c'est aussi, c'est sûr qu'il faut partager toutes ces responsabilités pour deux choses. D'abord, parce que sinon, on ne tient pas, et puis aussi parce que c'est bien, ça permet à plus de personnes de s'engager si finalement on pointe des plus petites façons de s'engager.
Je trouve que c'est un super système de fonctionnement, en fait, cette répartition des tâches et des rôles, un peu tout le monde au même niveau, avec pas un président qui en ressort, quelqu'un qui a plus de responsabilités et de pouvoir, entre guillemets. Je trouve que voilà, c'est un système dont beaucoup d'autres institutions pourraient s'inspirer. Et du coup, pour finir là, cet échange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour là, ces prochaines années à vous, votre AMAP?
Moi, je te dirais de retrouver plus d'AMAPiens, ouais. Vraiment. C'est ce qu'on voudrait pour pouvoir garantir le revenu des producteurs. Ça, c'est important. Et d'avoir de retrouver en fait des groupes un peu plus complets, quoi.
Ouais, en espérant que cet échange en ait inspiré plus d'un à devenir amapien et amapienne. Merci énormément pour cet échange.
Et il ne faut pas hésiter à passer à une distribution. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent quand on fait un peu le forum des associations ou là, la fête d'Oudiné. En fait, il faut passer voir. On est au centre Oudiné le jeudi, entre 20h et 21h, au centre d'animation de la Poterne, pareil, le jeudi, entre 19h30 et 20h30. Et en fait, n'importe qui peut passer voir ce que c'est, voir l'ambiance d'une distribution, prendre des renseignements, etc.
Et donc, c'est toute l'année, parce que du coup, le producteur, lui, produit toute l'année, en fait. Ouais. Il n'a pas... et en particulier au mois d'août, quand les Parisiens s'en vont, le producteur nous amène des super paniers de tomates, tout ça.
Donc, ouais. Non, mais il y a plein de bonnes choses qui à profiter. Merci énormément pour cet échange. En tout cas, moi, je sais que j'ai appris plein de choses et je vais essayer d'avoir une consommation plus responsable. Si vous avez un petit mot de fin pour nos auditeurs et auditrices.
Je dis qu'il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faudrait pas hésiter à aller à la MAP.
Venez voir, venez consommer. Voilà.
Venez à la MAP, c'est pas un petit cercle de gens qui se connaissent, quoi. C'est un cercle, un grand cercle vertueux. Et la MAP, ça fait du bien, quoi.
Et puis, au-delà de la MAP, de notre MAP, parce que tu as dit, le fait que, à travers nos choix d'alimentation, on engage notre responsabilité vis-à-vis des paysans, des paysannes, vis-à-vis de la terre, et voilà, vis-à-vis des pays de partout, puisque l'alimentation est mondialisée. Et donc, c'est vraiment, AMAP ou pas AMAP, en tout cas, réfléchir à ça. Qu'est-ce que je fais quand je mange, en fait ?
Ouais, non, je suis d'accord, c'est extrêmement important. Merci énormément.
Merci.
Et en espérant que plus de personnes s'engagent. Bonne soirée à vous.
Merci.
Et bonne soirée à vous, les auditeurs et auditrices. Merci.